20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Ce soir, Carbone 14 prend l'air pour mieux retrouver la réalité du terrain. Le terrain sur lequel il n'y a parfois rien à voir, toujours tout à comprendre, le terrain souvent malicieux qui surprend l'archéologue. On ne le sait que trop peu. À quelques kilomètres de Montpellier s'érige un exceptionnel site archéologique implanté depuis plus de 2500 ans sur les rives d'une lagune et de la Méditerranée. Un site à l'histoire complexe où se croisent les Gaulois du Midi, les Étrusques et les Grecs de Phocée, l'antique Latara qui a donné son nom à l'actuelle Latte. Aujourd'hui, de très importantes fouilles nous permettent d'entrevoir la genèse de cette région. J'ai donc retrouvé sur le terrain Diane Dussault, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée Henri Prade, et Isabelle Davot, archéologue de l'INARP. Diane Dussault, le site de Latte, l'antique Latara, serait une agglomération unique, un unicum, un apax en grec, sur les rives françaises de la Méditerranée ?
Oui, tout à fait. Le site archéologique de Latara, en fait, est une cité portuaire qui aurait été fondée, alors probablement par les Étrusques vers 500 avant notre ère, dans un contexte environnemental qui est extrêmement particulier, puisqu'on se situe sur une presqu'île entre les deux bras d'un fleuve, donc le Lèze, en bordure d'une lagune. Donc dans ce contexte languedocien, le rivage est compartimenté par des lagunes et séparé de la mer par un cordon lagunaire. Et donc Latara est un port qui se situe à l'intérieur puisqu'on y accède à travers un gros dans le cordon lagunaire, via une lagune et enfin on arrive à ce port. Donc cette ville est fondée donc probablement par les Étrusques vers 500 avant notre ère. Il y a un épisode assez violent de destruction un quart de siècle après, donc vers 475, à la suite duquel on n'a plus véritablement de traces de population étrusque, mais on a un véritable changement. On parle d'ailleurs de refondation de la ville à cette période-là, avec une composante indigène, gauloise, qui est de nouveau prédominante. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que le destin, en quelque sorte, de Latara est lié véritablement à la cité phocéenne de Marseille. Donc, puisque Latte est un port commercial, on se trouve effectivement dans ses débuts, dans une, alors peut-être pas une concurrence, mais en tout cas un contexte au niveau méditerranéen, avec deux grands pourvoyeurs de marchandises, notamment de vin, que sont les Étrusques et Marseille, qui développent sa propre viticulture à partir du milieu du VIe siècle avant notre ère.
Tout commence en 1963, bien sûr, comme à Altamira ou à Lascaux, par deux enfants.
Effectivement, c'est l'histoire qu'on peut lire dans les livres, mais qui est néanmoins est véridique, puisqu'il s'agit de deux écoliers d'Henri Prade, donc l'inventeur du site. D'ailleurs, le musée archéologique de Montpellier Méditerranée Métropole porte son nom. Et donc ces deux écoliers ont découvert en 1963 des vestiges archéologiques au lieu dit Saint-Sauveur qu'ils ont tout naturellement porté à leur instituteur qui était Henri Prade. Donc il était instituteur dans une école de Montpellier et également archéologue passionné. Donc c'est par là que tout a commencé en 1963 et avec quand même une découverte assez incroyable dès 1965 qui est une inscription, donc une dédicace d'Astrapton, mais qui mentionne les Latarenses, donc les habitants de l'antique Latara. Ce qui fait qu'on a la correspondance exacte entre le site archéologique et l'attestation par les inscriptions.
C'est quoi exactement cette inscription ? D'ailleurs, qui est l'auteur ?
En fait, c'est une dédicace romaine donc, qui a été découverte dans une scola, puisque le site archéologique de Latte, la ville de Latara, est occupé jusqu'au IIIe siècle de notre ère. Donc à l'époque romaine, il y a une scola assez importante en superficie. On est aux alentours de 150 mètres carrés, si je me souviens bien. avec donc une architecture monumentale et cette inscription. Cette inscription en marbre qui est une dédicace par deux collèges de la ville, donc les Fabry et les Utriculaires, donc deux corps liés à la navigation et au transport de marchandises.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis 1963, 64 exactement, les fouilles ont continué au point que aujourd'hui, nous sommes devant un monument historique qui est en cours de fouille.
Oui, en fait, dès les années 1980, le CNRS a repris la programmation des fouilles sur la Tara. Et donc, ça fait un peu plus de 30 ans que tous les ans, il y a des campagnes de fouilles sur ce site.
Vous me parliez de marais. Quel est l'intérêt de s'implanter au bord d'un marais? La pêche, les ressources ou carrément le commerce?
Je pense que c'est un peu évidemment un peu des trois. C'est sûr que la configuration environnementale de la Tara est particulière puisque avec les crues des fleuves, donc il y a un certain nombre d'alluvions qui viennent progressivement combler la lagune. En fait que la bande de terre prend de plus en plus d'importance sur les zones navigables. Et donc cette fonction commerciale, de fait, elle devient au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, de plus en plus compliqué. L'intérêt, effectivement, est d'avoir quand même un abri naturel constitué par cette lagune pour que les bateaux puissent arriver.
D'ailleurs, l'inscription d'Astrapton parle de radeaux, de pilotis, etc., etc.
Oui, effectivement, avec le corps des utriculaires. Alors, pendant longtemps, on les a interprétés comme étant des radeaux soutenus par des outres. Maintenant, l'unanimité est quand même faite pour pencher plus sur un collège ou une corporation professionnelle liée au transport de marchandises, y compris au niveau des fleuves, puisqu'on a cette particularité d'avoir des marchandises qui arrivent de haute mer ou par cabotage, qui pénètrent dans la lagune et qui ensuite peuvent éventuellement ou être remontés par le fleuve ou alors par voie terrestre.
Justement, cette implantation en bord de mer mais en lagune est-elle un modèle que l'on retrouve ailleurs, par exemple le long de la côte française, mais aussi de la côte espagnole?
Alors au niveau de la Catalogne, effectivement, il y a la ville d'Ullastret. Pour le coup, elle est plus éloignée du rivage, hein, puisqu'à Lattes, on n'a qu'une seule lagune. Ullastret, il me semble qu'on en a quatre ou cinq avant d'y parvenir. Donc cette configuration, elle est spécifique, hein, au Languedoc et à la Catalogne. Encore visible aujourd'hui en Languedoc à travers la présence des étangs. En revanche, en Catalogne, plus du tout. Il y a eu un ensablement complet de ces lagunes.
On peut parler pour la création, donc vers le début du 5e siècle ou la fin du 6e siècle, on peut réellement parler d'une agglomération pour la Tara, pour l'actuelle Latte?
Oui, ça c'est évident puisque une des particularités aussi de cette ville, c'est qu'on a dès les débuts un plan d'urbanisme qui est prédéfini. Alors, c'est-à-dire qu'on a, alors peut-être pas dans sa toute première phase, mais en tout cas très rapidement, cette enceinte monumentale qui est construite, qui délimite le noyau principal, hein, de la ville, qui fait 3,5 hectares. Une enceinte monumentale qui est construite en adobe, donc en briques de terre crue, sur 5 à 6 mètres de haut, sur un périmètre assez important, on doit être autour de 700 mètres. Selon les estimations, je crois qu'il y a entre 600 000 et 800 000 adobes qui auraient été utilisés pour la construction de ce rempart. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et qu'il y a vraiment un schéma urbanistique. Donc, à travers la construction de ce rempart, dont le tracé perdure pendant toute l'occupation de la Tara, mais aussi à l'intérieur de cette zone délimitée par l'enceinte, avec un plan orthonormé qui s'installe, une tramvillère, ou en tout cas les grands axes sont installés dès les débuts, et puis des constructions sous forme d'îlots.
L'adobe, la terre crue, n'est pas du tout un matériau gaulois.
Non, effectivement, on est dans ce schéma urbanistique, mais aussi dans les caractéristiques architecturales, hein, qui sont employées sur cette première période de la Tara, au début du 5e siècle, sur des apports méditerranéens qui sont évidents. La question est aussi de savoir quelle est la présence, la part des populations gauloises dans la mise en œuvre de cette entreprise. Une chose est sûre, c'est que une opération d'une telle ampleur n'a pas pu être mise en œuvre sans le concours des populations locales, ne serait-ce que pour la main-d'œuvre.
Isabelle Davot, alors vous remontez le temps bien avant l'Attara, vous fouillez, allez, 6, 7, 8 hectares aujourd'hui?
8 hectares en cours d'ouverture là, à l'heure actuelle, hein, sur l'extension d'une ZAC, la ZAC Aude à la Mer, là, qui est portée par Montpellier Métropole. Nous avons démarré il y a 2 mois et en fait cette fouille est la suite d'une opération qui a été faite il y a maintenant 8 ans, en 2010, hein, sur le versant de la colline en contrebas dans la plaine, en bordure d'un cours d'eau d'un petit fleuve côtier proche du Lez, à la Cougourlude.
Alors nous ne sommes pas dans l'enceinte même de la ville de l'Attara, la ville entre guillemets étruse de l'Attara, nous sommes à l'extérieur, environ quoi, 1 kilomètre à peu près, et nous sommes sur une implantation qui n'a rien à voir avec les Étrusques.
Non, rien à voir. La bordure de la Cougourlude, en fait, se trouve à 1 kilomètre des portes de la future Latara, puisque à cette époque-là, Latara n'existe pas encore. Nous avons des petites occupations intermittentes en bordure de ce fleuve côtier qui s'appelle la Lironde, proche de son embouchure, puisque les rivages de la lagune se trouvent à environ 200 mètres de nous à l'époque. Donc, en bordure de ce petit fleuve, occupations intermittentes durant ce qu'on appelle le bronze final, et puis un petit peu plus tardivement au premier âge du fer, en tout cas bon, au 9e et puis après à l'extrême fin du 7e, début 6e, cet habitat va se pérenniser dans le temps. Il reste très modeste à son démarrage, hein, et comparable à ce qu'on connaît des habitats retrouvés en bordure des rivages de l'étang de Mogio un petit peu plus à l'est, hein, donc des petites installations, des hameaux en quelque sorte, hein, de population agricole. Et puis on assiste à la Cougourlude à partir du milieu de ce 6e siècle, hein, donc à partir de 570, 550, à vraiment une formidable expansion de cet habitat à la fois en surface, en densité d'aménagement et puis au travers du mobilier que nous on retrouve dans les dépotoirs, dans les poubelles de ce premier village qui grossit, vraiment une augmentation de sa prospérité qui est liée alors certainement à d'abord une implantation favorable puisqu'en fait on est en bordure de ce fleuve et on est au carrefour avec une voie importante qui longe le rivage des étangs et le rivage de la Méditerranée, qu'on retrouve sur plusieurs dizaines de kilomètres de long, qui préexiste à l'installation de notre habitat. Et les apports, la fouille des ensembles mobiliers nous montre que donc dès le début du 6e siècle, on a des échanges qui sont fructueux, répétés, avec les commerçants méditerranéens, puisque parmi la céramique, par exemple, les importations représentent à peu près 40% des assemblages, ce qui est très nettement supérieur à tout ce qu'on trouve sur les habitats environnants. Donc on a un petit habitat modeste, mais qui, suite à des contacts répétés, échanges vraiment avec les populations. Alors Diane parlait des Étrusques, des Grecs. C'est vrai que dans un premier temps, il reçoit plutôt du matériel étrusque, du vin étrusque pour l'essentiel. Très rapidement, les produits grecs vont s'associer à cet ensemble. Et donc, ils vont échanger leur propre production, hein, céréalière, le bétail, hein, le bœuf en particulier, qui occupe une part importante. Pourquoi pas le sel, hein, puisqu'on est dans des lieux propices à la production du sel qui manquait à la fois aux Grecs et aux Étrusques. Et donc, suite à cet échange, donc cet habitat prospère et va finir par attirer les populations des villages environnants pour grossir, grandir et se construire réellement en une proto-ville, on assiste à la proto-urbanisation donc, de ce lieu.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Isabelle Davot, vous allez me dire que vous ne savez pas, ou du moins vous ne pouvez pas répondre. Mais qui sont ces Gaulois du Midi? Est-ce qu'ils existent d'ailleurs?
Ah ben ils existent, ils sont là, ils ont construit leur maison, ils se sont rassemblés. Bon, les Gaulois, c'est un terme un peu générique qui rassemble toute une diversité de populations. En tout cas, ce sont les populations locales, hein, que l'on connaît, qui sont là déjà au néolithique, à l'âge du bronze, et qui se structurent, qui commencent à s'organiser réellement. Hein, et ça, on le ressent non seulement à la Cougourlude, mais par la construction en fait de leur territoire environnement, par le biais de l'implantation du réseau Vierre qui va vraiment se développer, que l'on connaît bien mais aujourd'hui grâce aux interventions d'archéologie préventive, donc des voies qui seront pérennisées par la suite à la période romaine, le long desquelles on retrouve des tombes monumentales donc du 6e siècle qui précèdent la fondation de Latte, hein, en plusieurs points, à la Serrered, une tombe avec du mobilier étrusque, un instrument de toilette, un strigile qui est tout à fait unique sur nos rivages, un peu plus loin, à quelques kilomètres de là où nous sommes, la nécropole de la Paillotrice, fin 6e, début 5e. Donc on a vraiment à la fois un réseau vierre qui s'installe, se pérennise, des tombeaux qui peuvent marquer des limites de territoire, des points forts dans la structure de ce territoire, hein, qui sont des tombes monumentales. C'est pas n'importe qui est enterré dans ces monuments funéraires. Et puis, tout près de nous, là, sur la colline voisine, à peut-être 200 mètres de là où nous sommes, un probable lieu de culte aussi du 6e, 5e siècle, dont on a retrouvé trace en 2008 sur des fouilles menées par Oxford Archéologie, avec un dépôt de 300 et quelques disques en bronze de typologie étrusque, qui est un vrai dépôt votif, hein, qui marque un rituel, et sur lequel va s'installer à la période suivante un monument cultuel.
Vous me parlez de proto-urbanisation. C'est quoi la proto-urbanisation chez les Gaulois du Midi?
Alors, on l'a vu à Latte, plan dès les premières phases d'occupation, construction d'un rempart, plan d'urbanisme préétabli, hein, qui va diriger l'implantation de bâtiments rectangulaires, bien réguliers. À la Cougourlude, rien de tout cela. Hein. On a un habitat en matériaux qu'on pourrait dire léger, même si c'est un petit peu péjoratif, mais enfin, bâti de terre et de bois, qui a priori se développe de manière un peu désordonnée. Hein. On n'a pas du tout un quadrillage régulier, bien au contraire, on a l'impression que l'espace est un petit peu investi de proche en proche. Malgré tout, on arrive à un moment où ce site, dans sa totalité, couvre une surface qui va avoisiner les 30 hectares. Et là, c'est la grande nouveauté de cette année, et c'est la raison de notre présence ici, c'est qu'il a été découvert sur la colline surplombante, donc la Cougourlude, qui est installée dans la vallée, une enceinte monumentale avec un fossé que l'on suit sur plus de 500 mètres de long, un fossé de 8 mètres à l'ouverture, 3 mètres de profondeur, doublé sur l'extérieur par deux autres lignes de fortification, hein. Il s'agit bien d'un fossé défensif qui était bordé par un mur d'enceinte à l'intérieur de l'espace. Et donc on a réellement une fortification de hauteur, une ville haute qui surplombe notre village de plaine de la Cougourlude.
Une sorte d'acropole.
D'acropole, oui, même si le terme n'est pas tout à fait approprié à la région. Alors la question qui se pose, et pour l'instant c'est ce à quoi il nous faudra répondre là à l'issue de l'opération, c'est que en première analyse, ce fossé est contemporain de la phase de plus grande prospérité de la Cougourlude, c'est-à-dire entre 530-475. Hein, donc on a un habitat à l'origine modeste qui grossit, donc c'est la première, c'est l'hypothèse en cours aujourd'hui, qui va construire se doter d'une fortification. C'est pas la fortification qui s'est par la suite étendue dans la vallée et qui de manière tentaculaire, non, c'est vraiment, on assiste à la naissance à partir d'un petit village, d'une ville, parce que il y a des équipements collectifs, le rempart en est un, qui signale un pouvoir structuré et une société suffisamment hiérarchisée donc pour mettre en œuvre ce type de travaux.
Alors nous sommes justement sur le terrain, une sorte d'immense zone remplie de graves, de cailloux un peu orange. On voit très bien l'énorme fossé qui est plus brun-gris, qui est absolument gigantesque, et puis deux petits fossés à l'avant. On peut penser donc qu'il y avait aussi un mur de rempart. Est-ce que l'on est dans le défensif ou est-ce que l'on est justement dans l'ostentatoire? Et le pouvoir, bien sûr.
On est dans les deux, il me semble. Hein. Bien sûr, la localisation là du fossé et de son mur attenant, on peut imaginer quand vous regardez aux alentours qu'il était visible plusieurs kilomètres aux alentours. Donc il y a avant tout une volonté ostentatoire d'exprimer la puissance de cet habitat. Bon, après, il n'est pas impossible qu'il y ait quelques relations conflictuelles qui leur a imposé de monter des défenses. Mais je pense qu'avant tout, c'est plutôt justement l'expression de la puissance de ce groupe humain qui s'est installé là, qui veut vraiment montrer à tous qu'il domine la plaine de Lattes. Hein. On est sur la seule éminence de la région.
Isabelle Davot, vous me disiez que votre matériel, j'imagine les tessons et le reste du mobilier, sont essentiellement d'origine grecque, pas du tout étrusque. On serait dans la sphère d'influence de Marseille ?
Sur nos rivages méditerranéens, donc avant la fondation de Lattes, les importations commencent à arriver vers à la fin dans la deuxième moitié du 7e siècle avant notre ère. Ces premières importations sont majoritairement étrusques, hein, des amphores, des vases liés à la boisson, de la vaisselle métallique. Et petit à petit, dans le courant du 6e siècle, vont se substituer, vont prendre en importance la part des importations de Grecs, de Grèce continentale, orientale, et puis pour finir de Marseille, hein, toute proche. Alors à la Cougourlude, on a du mobilier étrusque. Dans les premières phases d'occupation, on en a une bonne part, mais qui n'est pas du tout comparable à ce qu'il y a à Lattes un petit peu plus tard. Et dans la période de contemporanéité des deux habitats, il est clair qu'à la Cougourlude, on a du mobilier grec. On est dans un habitat qui commerce essentiellement avec des courtiers, des marchands grecs, tandis qu'à Lattes, la prédominance étrusque est manifeste.
Vous avez aussi trouvé récemment une très belle tombe avec un très beau mobilier. Je sais qu'il y a un très beau javelot.
Oui, nous avons une tombe à incinération à environ 200 mètres hors les murs du rempart, hein, en bordure d'un palais au vallon et d'une autre voie de circulation ancienne. Une tombe à crémation. L'individu, les restes de l'individu brûlé sont déposés dans une amphore étrusque, accompagnée par une nokoé, une cruche à boire imitée des productions grecques, hein, dans une céramique produite régionalement. Et puis surtout, dépôt donc de métal, notamment d'un javelot en fer, un soliferum, qui est une pièce extrêmement rare. Hein. C'est la première fois qu'on en découvre dans cette partie-ci du département. On les retrouve plutôt dans les régions un peu plus occidentales, hein, à l'ouest du fleuve Hérault. Donc armement et vaisselle métallique aussi en bronze. Un bassin, une louche à puiser le vin. Tout ça étant passé sur le bûcher et ployé là, autour de l'ossuaire.
Et puis avec les Gaulois, je dirais, c'est toujours les surprises. Un individu assis dans une caisse.
Oui, ça c'était à la Cougourlude, une animation très très particulière qui nous a posé beaucoup de soucis, à la fois à la fouille et à l'interprétation. Donc en bordure d'un grand fossé, là aussi un grand fossé d'enceinte de la Cougourlude, un individu adulte, un homme, hein, inhumé, accroupi dans un contenant rigide, une caisse probablement, très petite, et installé avec un mât de signalisation, donc peut-être une héroïsation du personnage.
Ce que l'on retrouve dans le nord de la France, à Syromance par exemple, où on a des sortes de momies assises gauloises comme ça, séchées au vent.
Oui, mais quelques centaines d'années plus tard quand même, puisque là nous sommes à la fin du 6e, début 5e. Hein, effectivement, il a fallu qu'on aille chercher des parallèles dans le nord de la France, en Suisse un petit peu plus près tout de même, ou dans le centre, mais pour des périodes plus tardives. Hein, là aussi, cette inhumation est très très particulière.
Et puis, surprise, trois chiens regroupés ensemble. Et là, les explications religieuses pointent.
Donc à l'intérieur de notre enceinte fortifiée, il y a des fossés qui marquent des délimitations de l'espace. Et à l'entrée d'un de ces fossés, on a trois squelettes de chiens inhumés, donc toujours dans les mêmes phases, hein, fin 6e, début 5e. Jeunes chiens, hein, puisque l'âge au décès est estimé vers 15 mois, d'assez gros gabarits. Non consommés, hein. Les squelettes sont entiers, ils n'ont pas été dévorés, mangés, et associés à des jetons en terre cuite, donc ils sont aussi des objets que l'on retrouve souvent dans des gestes à caractère religieux.
Vers 475, tout s'effondre.
Tout s'effondre. On n'a pas le sentiment que ça s'effondre. En tout cas, vers 475, à la Cougourlude, la Cougourlude se vide de ses habitants. Alors, on n'a pas de destruction massive comme on a pu observer à la même période dans la ville de La Tara, avec une brèche dans le rempart, des niveaux d'incendie un petit peu généralisés. À la Cougourlude, on a purement et simplement l'impression que le site est abandonné. On retrouve les poteaux qui soutenaient les bâtiments, les calages de poteaux intacts. Il n'y a pas de crue dévastatrice du fleuve, pas de signe d'incendie, en tout cas généralisé. Non, non, les habitants partent. Et évidemment, l'hypothèse, c'est qu'ils partent pour aller s'installer en ville, dans les murs de la ville de Lattes.
Diane Dussault, vous récupérez les Gaulois de la Couvre-Loup, c'est bien ça?
Alors certainement que ces populations se déplacent à l'intérieur de la Tara, puisque c'est vrai que à cette période-là, vers -475, pour le coup, Isabelle le disait, on a des signes manifestes de destruction, d'incendie dans les niveaux étrusques qui ont été fouillés, donc deux zones, toutes les deux situées à proximité du rempart, et effectivement cette brèche dans le rempart. Après 475, on a un changement manifeste à la Tara, c'est-à-dire que sur la période précédente, il y a une population étrusque qui est installée, on a beaucoup d'amphores vinaires étrusques, il y a également de la céramique étrusque, à la fois de toute la batterie de cuisine, mais également de la vaisselle de service.
Les inscriptions aussi.
Exactement, et des graffitis en étrusque sur ces tessons. Donc on est vraiment dans une population étrusque. Il y a même dans une zone en particulier du matériel de mouture qui provient d'Étrurie. Donc on peut imaginer l'installation de ces populations qui arrivent avec leur langue, leur alphabet, leur production céramique et qui s'installent. Après 475, on a un changement complet de faciès avec une composante gauloise qui est très importante, donc effectivement certainement liée à l'arrivée aussi de ces populations de la Cougourlude, et puis une disparition, alors non pas des importations étrusques, hein, puisque il y en a quand même encore quelques-unes, notamment donc les amphores, mais en tout cas on n'a plus de traces de cette population, de la présence d'habitants étrusques dans la Tara.
Donc, si je résume, au départ, on serait sur une véritable implantation étrusque. Mais pourquoi? Peut-on appeler ça une colonie, un comptoir, un emporium?
C'est plus compliqué que ça, évidemment. Ça l'est toujours, mais d'autant plus dans le cas de la Tara, puisque cette présence étrusque, elle est attestée en quelques zones. Mais on est loin d'avoir fouillé l'intégralité des 3,5 hectares qui sont compris à l'intérieur de l'enceinte. Donc c'est une hypothèse d'avoir ce comptoir commercial étrusque. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas des données éventuellement plus à l'intérieur, au centre de la ville, l'hypothèse reste ouverte et laisse la place à d'autres possibilités, notamment la présence de populations méditerranéennes type grec. Et c'est vrai que la fouille de la Cougourlude est passionnante à ce titre, parce que elle remet la Tara dans son contexte général, et en le renvoyant aussi à tout ce qui se passe au niveau géopolitique à cette période-là sur les rivages de la Méditerranée, avec les défaites étrusques de Cum, de Lipari, face aux Grecs qui prennent de plus en plus d'importance, Marseille sur le rivage languedocien également qui s'étend. Donc on est dans ce contexte-là, donc il y a énormément de questions qui restent ouvertes.
Isabelle Davot, vous aurez le mot de la fin. Vos Gaulois de la Cougourlude, se déplaçant à la Tara, donc chez les Étrusques, est-ce qu'il n'y aurait pas acculturation?
Acculturation des Étrusques, vous voulez dire? Non, en tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer l'implantation d'une colonie étrusque dans un territoire qu'on le voit bien est déjà structuré par les Gaulois en présence, qui eux ont des relations avec des Grecs. Alors la culturation de nos Gaulois, elle reste discrète, hein, puisque on l'a vu dans les modes architecturaux. Certes, il y a l'adobe qui arrive aussi à la Cougourlude vers le milieu du 6e siècle pour les premières attestations, mais on sent bien qu'il reste quand même avec les aménagements, leurs aménagements traditionnels, leur vaisselier qui, même si les formes, les techniques évoluent, les formes du vaisselier malgré tout restent à peu près constantes. Donc en dehors de la consommation du vin, on a l'impression que la culturation reste relativement modeste, hein, pour les habitants de la Cougourlude.
à découvrir le site de la Tara qui se visite, mais aussi le musée Henri Prades qui conserve le fruit de ses relations entre Celtes, Étrusques et Grecs. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Célia Dufour et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lachard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, départ pour un autre temps, autre lieu.